Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La vaccination s'accélère, mais pas encore dans les EHPAD. À peine 10% des pensionnaires vaccinés. Information Europe 1 à suivre. Couvre-feu généralisé dès 18h demain. Quelles conséquences et quelles aides pour les commerces? Réponse dans un instant. La reprise des cours de première année envisagée à partir du 25 janvier dans les universités. Échange ce matin entre Jean Castex et les syndicats étudiants et enseignants. L'économie française plombée par le Covid l'an dernier et pourtant jamais autant d'entreprises n'ont été créées en France. Près de 850 000. Trois marins pêcheurs portés disparus après le naufrage de leur navire au large du Calvados. Recherche en cours. La disparition de l'infirmière Delphine Jubilard dans le Tarn. Les gendarmes enquêtent sur l'activation récente de son compte Facebook. Et puis le classement du Vendée Globe encore chamboulé avant le passage du poteau noir au large du Brésil. Une course à suspense pour le final. Invité d'Europe Midi, l'épidémiologiste Mircea Sofonea. Que sait-on de l'efficacité du couvre-feu et des risques de propagation des variants ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ni apéro, ni opéra. Face à la menace de nouveaux variants très contagieux du virus, la France tout entière va donc devoir renoncer à 2 heures supplémentaires de vie sociale. Retour obligatoire à la maison dès demain avant 18h, sauf dérogation professionnelle, ce qui interdit les courses de fin de journée. C'est l'impact économique numéro 1 du couvre-feu, l'activité des commerces, Carole Ferry.
Eh bien oui, parce que je vais vous donner un exemple. Dans la grande distribution, le créneau 17h30-20h, c'est un tiers de nos courses alimentaires. Donc vous imaginez le manque à gagner. Bon, en même temps, il faut bien remplir le frigo à un moment, donc il y aura forcément des reports. D'ailleurs, pour éviter que tout le monde se retrouve dans les supermarchés le samedi, les ouvertures seront autorisées le dimanche, quand le préfet donne son feu vert. Et puis, les magasins s'adaptent. Auchan a déjà annoncé, par exemple, que ses hypermarchés ouvriraient dès 7h30 le matin, et ce, dès demain. Vous avez d'autres secteurs pour lesquels le report est un peu moins évident. Les fleuristes, par exemple, ou l'habillement. Sa fédération a regardé ce qui s'était passé là où le couvre-feu à 18h était déjà en place. Eh bien, c'est 25 à 30% de perte du chiffre d'affaires.
Et le gouvernement, hier soir, a annoncé de nouvelles aides.
Oui, alors là, c'est surtout pour les activités fermées administrativement ou extrêmement touchées par la crise. La principale mesure, c'est la prise en charge par l'État de 70% des frais fixes pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros par mois. Cette aide, elle pourra aller jusqu'à 3 millions d'euros. Elle concerne surtout les groupes avec plusieurs établissements, les chaînes de restaurants, les chaînes hôtelières ou encore les salles de sport, et pour lesquelles le plafond du fonds de solidarité de 200 000 euros était très insuffisant. Emmanuel Sauvage, par exemple, dirige le groupe Evoque. Il possède 4 hôtels 5 étoiles à Paris et il paye plus d'1 million d'euros de charges fixes chaque mois.
On a les contrats, notamment donc, qui sont les loyers. Toute la maintenance des établissements ont quand même de gros contrats de maintenance. Rien que ça, vraiment, les petits groupes familiaux, notamment, ont été en très, très grande souffrance. Donc, c'est vrai que ça va donner un petit peu d'air et surtout, ça va peut-être permettre de sauvegarder quand même pas mal d'emplois.
Autre mesure qui fait pousser un ouf de soulagement au secteur, le chiffre d'affaires des restaurants qui font de la vente à emporter ne sera pas prise en compte dans le calcul du fonds de solidarité. Et puis les fournisseurs de restaurants, les traiteurs, les hôtels auront désormais droit aux mêmes aides que les restaurants quand ils ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires contre 90% jusqu'à présent.
Et Carole Ferry, à noter qu'au moment où les Français sont condamnés à jouer les couche-tôt, le gouvernement réitère son refus au groupe Couche-Tard. Il n'y aura pas de rapprochement ou de rachat de Carrefour par le distributeur canadien. C'est un non clair et définitif, dit Bruno Le Maire ce matin au nom de la sécurité alimentaire du pays. Côté vaccination, la campagne vient de connaître une accélération spectaculaire. Plus de 71 000 piqûres hier. À ce rythme, le million de personnes ayant reçu une première dose sera dépassé avant la fin du mois, on en est à 318 000. Mais qui sont les populations vaccinées? Les résidents d'EHPAD, qui devaient être absolument prioritaires dans la stratégie initiale, ou les soignants de plus de 50 ans qui ont été inclus prématurément pour calmer la polémique? Victor Delande, vous venez d'obtenir les chiffres, information Europe 1.
Oui, seuls 10% des résidents des EHPAD ont été vaccinés depuis la fin du mois de décembre. Un peu plus de 74 000 personnes vaccinées sur un total de 700 000 résidents dans les EHPAD de toute la France. Les 244 000 autres personnes vaccinées sont donc des soignants de plus de 50 ans, mais aussi des pompiers, des aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. Ce qui veut dire que sur les 318 000 Français vaccinés, une personne sur cinq est un résident d'EHPAD. C'est peu. Le recueil du consentement, souvent pointé du doigt, est l'une des raisons de cette lenteur. Le gouvernement promet toutefois que la campagne de vaccination va considérablement accélérer dans les EHPAD, et ce, dès lundi prochain. En visite dans un centre de vaccination ce matin à Troyes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré qu'il y avait déjà 833 centres actuellement ouverts dans tout le pays. Le ministre a également fixé de nouveaux objectifs. Les stocks de vaccins actuels permettront de vacciner, dit-il, jusqu'à 2,4 millions de Français d'ici la fin février. Nous pourrons même arriver à 4 millions de Français vaccinés, a-t-il poursuivi, si et seulement si le vaccin AstraZeneca est validé d'ici là par l'Agence européenne des médicaments et ensuite par les autorités françaises.
Ce nombre de Français vaccinés, il comprend les deux doses, pour être précis.
Exactement.
Merci Victor Delande. Le retour timide des étudiants dans les facs, il était espéré, réclamé par l'ensemble de la communauté universitaire. Jean Castex l'a annoncé hier soir, une reprise des cours pourra avoir lieu à partir de la semaine du 25 janvier. Par demi-groupe, dans les travaux dirigés de première année. Le Premier ministre vient d'en parler avec des représentants étudiants et enseignants, Jean-Rémy Bodo.
Oui, un moment d'échange en visioconférence, car à Matignon, comme à l'Élysée, on s'inquiète du malaise grandissant des étudiants dans la période. Devant la communauté étudiante, Jean Castex est effectivement revenu sur l'annonce faite hier, cette possibilité de reprise des TD par demi-groupe dès le 25 janvier. Mais il a par ailleurs annoncé que les 80 psychologues et les 60 assistantes sociales déjà déployées en renfort dans les Crous seraient pérennisées pour toute l'année civile 2021. Autre annonce faite ce matin, Matignon prévoit de mettre en place des chèques de soutien psychologique pour que les étudiants puissent consulter des psys en ville. Alors à l'issue de cette réunion, j'ai appelé des syndicats étudiants et ceux à qui j'ai pu parler ont regretté le manque d'accompagnement immédiat, financier pour les étudiants. Le manque aussi d'avancée selon eux sur la question de la précarité étudiante. Les étudiants, leur situation, un sujet qui devient de plus en plus politique. L'opposition dénonce ce manque de moyens. Matignon promet pour l'instant de poursuivre le dialogue.
Jean-Rémy Bodo, cette dernière minute, on apprend que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour trafic d'influence visant les activités de conseil de Nicolas Sarkozy. Ce qui est visé, ce sont ses activités en Russie. Monsieur Sarkozy a été rémunéré, semble-t-il, par une société d'assurance russe, Réseau Garantia. Enquête, nouvelle enquête du PNF concernant Nicolas Sarkozy.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le boom des créations d'entreprises en 2020, la disparition de trois marins pêcheurs en Normandie et le final à suspense du Vendée Globe.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Étonnant, dans un paysage économique en plein marasme, l'INSEE communique ce matin sur un record à la hausse. On n'a jamais autant créé d'entreprises en France. L'an dernier, près de 850 000. Vous nous expliquez, Olivier Samin.
Oui, plus 4% par rapport à 2019, qui, il faut le préciser, était déjà une année record. Alors il faut regarder plus en détail les chiffres pour comprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Parmi les 850 000 entreprises créées en 2020, les trois quarts, 630 000, sont des entreprises individuelles. Et au sein de ces entreprises individuelles, c'est, précise l'INSEE, l'activité transport et entreposage qui a explosé avec une hausse de 22% l'année dernière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme transport et entreposage ? Tout simplement, les livreurs à domicile qui, rappelons-le, ont le statut de micro-entrepreneurs et dont l'activité s'est envolée quand les restaurants ont dû se reconvertir dans la fabrication de plats à emporter. Il y a donc clairement un effet Covid dans les chiffres publiés ce matin par l'INSEE. D'ailleurs, si on regarde les créations d'entreprises classiques, au sens entreprises qui ont un statut de société, elles ont été légèrement moins nombreuses en 2020, moins 0,2% par rapport à 2019.
Et Olivier Samin, au large du Calvados, le naufrage d'un bateau de pêche la nuit dernière, le navire Le Braise avait donné l'alerte hier soir pour une avarie de barre. La SNSM était venue lui porter assistance, mais c'est en cours de remorquage que le bateau a été emporté par une lame avant de sombrer soudainement. Trois marins pêcheurs sont portés disparus dans une eau de 9 à 10 degrés. La porte-parole de la préfecture maritime de la Manche, le lieutenant de vaisseau Marine Montjardet.
C'est la SNSM de Ouistreham qui a répondu à cet appel et qui est allé à la rencontre du Braise pour le remorquer. À 23h35, le Braise prend visiblement une lame, donc une vague, et sombre soudainement dans une mer qui était formée. Ce sont des conditions météorologiques difficiles, mais qui sont courantes dans la Manche. Le CROSS a engagé des moyens étatiques, donc l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, et il a également engagé deux vedettes supplémentaires de la SNSM pour porter assistance et participer aux recherches des trois membres d'équipage. Ces recherches, elles se sont poursuivies effectivement toute la nuit. Plusieurs dizaines d'heures de recherche en mer. Un peu avant 11h ce matin, le préfet maritime a décidé de l'arrêt des recherches par moyen dirigé. Les conditions de température de l'eau, qui sont à environ 9-10 degrés, laissent peu d'espoir.
Propos recueillis par Jean-Jacques Herry. Silence et mystère toujours autour de Delphine Jubilard, cette infirmière disparue depuis un mois dans le Tarn. Les battues, les recherches sont toujours lancées par les gendarmes et les juges d'instruction ne donnent rien. Mais les proches de la jeune femme ont signalé une brève activation de son compte Facebook, sans que l'on sache s'il s'agit d'un piratage, Gladys Laffitte.
Oui, c'est un très étrange message qui a été posté avant-hier dans un groupe fermé sur Facebook. Un message vide, sans texte, qui est resté affiché suffisamment longtemps pour provoquer des réactions et des commentaires. Alors tout de suite, les proches de la jeune femme l'ont signalé aux enquêteurs pour qu'ils vérifient l'origine de cette activité, pour le moins inattendue. Est-ce que c'est Delphine Jubilard elle-même qui s'est connectée, un proche? Serait-ce un piratage ou bien le plus probable, selon l'avocat de ses amis de l'infirmière, un bug du réseau social? Une énigme de plus, en tout cas, dans cette enquête qui continue en toute discrétion depuis un mois. La maison du couple est placée sous scellé, elle a été fouillée méthodiquement plusieurs fois, perquisitionnée aussi en présence du mari de l'infirmière, ils étaient en instance de divorce. Cette maison a même été passée au Blue Star, vous savez, c'est ce produit qui permet de déceler des traces de sang, mais rien n'a été découvert. Le mystère reste donc complet, même si la piste criminelle reste privilégiée. Le procureur de la République de Toulouse l'avait affirmé juste avant Noël. Rien n'indique que la disparition de Delphine Jubilard ait pu être volontaire.
Merci Gladys Laffitte. À l'étranger, encore un Américain exécuté par les autorités fédérales, un ex-trafiquant de drogue condamné à la peine capitale. Il a reçu une injection létale dans la nuit après le feu vert des juges conservateurs de la Cour suprême. 12 condamnés américains ont ainsi été exécutés depuis l'été dernier grâce au feu vert de Trump et de ses juges. Un rythme inédit aux États-Unis depuis des décennies. Joe Biden, qui prêtera serment mercredi et lui opposer à la peine de mort. Il a promis de travailler avec le Congrès pour l'abolir au niveau fédéral. Le Vendée Globe avec de nouveaux changements en tête de la course, alors que les skippers remontent vers l'équateur juste avant de tomber dans le poteau noir, cette zone de surplace où les vents sont très faibles, ce qui nous promet une fin d'épreuve incroyablement ouverte et indécise. Corinne Boulou.
Oui, après 67 jours de course, cette édition du Vendée Globe n'offre décidément aucun répit aux solitaires. La météo et la récate qui s'est installée au large des côtes nord-est du Brésil mettent les nerfs des navigateurs à rude épreuve. Le moindre relâchement se paye cash, la moindre erreur de trajectoire ou d'angle de vent aussi. L'ancien leader Yannick Bestaven paye un lourd tribut après avoir buté le premier dans une zone sans vent qui a permis cet incroyable regroupement. Au dernier pointage de midi, il est désormais relégué en 6e position à environ 180 kilomètres du premier. En tête de la flottille, Charlie Dalin continue de résister avec un voilier qui n'a pas tout son potentiel depuis son avarie de foil à l'entrée du Pacifique.
C'est que du bonus depuis mon avarie. Le Vendée Globe va très bien pu se terminer pour moi en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Du coup, voilà, là, je suis encore en course, content d'avoir retrouvé la tête et je vais tout faire pour la conserver.
Et dans le sillage de Charlie Dalin, Louis Burton à bord du bateau vainqueur il y a 4 ans, suivi de l'Allemand Boris Herrmann, le plus rapide ces dernières heures, sont de plus en plus menaçants à moins de 75 km du leader. Et derrière, 3 autres concurrents restent en embuscade pour le podium. La zone du poteau noir, vous l'avez dit, qui approche, pourrait encore rebattre les cartes d'un Vendée Globe toujours aussi indécis, mais passionnant.
Passionnant et toujours passionnant de le suivre avec vous. Merci beaucoup Corinne Boulou. Le temps, Anissa Haddadi, le retour du soleil.
Première bonne nouvelle.
Oui, enfin, soleil dans un froid glacial. Assez fort. Hein,
exactement, Patrick. Et deuxième bonne nouvelle, c'est la fin de vigilance orange pour les 8 départements du Grand Est qui ont connu des chutes de neige assez remarquables ces dernières heures. Alors même si les vigilances sont levées, restez tout de même prudents parce qu'on a quand même eu 20 cm de neige dans le centre-ville de Strasbourg. La ville de Nancy a été beaucoup touchée également, Mulhouse. Donc restez prudents parce qu'en plus les températures sont très froides et il y a une formation de verglas sur toutes ces communes du Grand Est. Alors cet après-midi, il fait beau sur toute la moitié nord du pays et la façade atlantique. Du Massif central aux Alpes, sur un petit quart centre-est, et bien là, nous avons de nouveau des chutes de neige en plaine, un risque d'avalanche en montagne. Et puis dans le sud, sur les Pyrénées, le temps est pluvieux cet après-midi. Et dans le golfe du Lion, toujours du vent fort, Mistral et Tramontagne jusqu'à 110 km/h. Les températures froides au nord-est, 1 degré à Charleville-Mézières et Strasbourg, 2 pour Nancy et Lille, 3 seulement à Paris, 5 à Clermont-Ferrand, 7 pour Lyon, 9 à Vannes, 11 degrés pour Biarritz et Brest et 13 la maximale pour Toulon.
Week-end donc froid. Très froid, ouais. Plutôt ensoleillé. Mais j'ai vu qu'il risquait d'y avoir un petit peu de neige en région parisienne demain.
Oui, la neige arrive en plaine, à très basse altitude. Alors ce sont des flocons qui ne tiendront pas au sol, Patrick. Hein.
Bon, mais on aura des flocons.
Mais on aura des flocons dans le ciel, ouais.
Merci beaucoup Anissa, bon week-end.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le couvre-feu efficace ou pas ? L'épidémiologiste Mircea Sofonea avec nous dans un instant.